Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc repartis pour un confinement ces prochaines semaines afin d'enrayer l'épidémie de Covid-19 qui, à nouveau, déferle sur le monde. Plus de déplacements, plus de rassemblements, arrêt net des arrêts spectacles, fermeture des librairies. Bref, le temps suspend son vol. Et pourtant, nous allons continuer de parler de littérature sur RFI, d'ouvrir les frontières, de feuilleter les livres et de vous raconter des histoires, ainsi que donner la parole aux auteurs d'ici et d'ailleurs. Et ainsi, aujourd'hui, nous allons en Martinique. Bonjour Raphaël Confiant.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes sur votre île natale, où nous vous appelons par téléphone. Île qui, des Antilles, est à ce jour la seule, je crois, à être confinée, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Nous avons le même confinement que dans l'Hexagone. Tous les autres territoires d'outre-mer ont une situation moins grave que la nôtre. Alors, au départ, la nôtre était moins grave. Et puis, bon, il y a eu quelques... Comment dirais-je? Je ne sais pas comment qualifier ça. Quelques libertés qui ont été prises par certains. Et cela a redéclenché l'épidémie. Et puis nous voilà aujourd'hui bloqués. Et moi, en tant qu'écrivain, je suis triste de voir le sort qui est réservé aux livres.
Évidemment, nous allons en parler. Juste, je m'arrête un instant sur ce que vous venez de nous dire. Donc, il y a beaucoup de malades en Martinique?
Eh bien, écoutez, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu beaucoup de malades. Et puis, il y a eu, depuis environ 2 semaines, une hausse brutale et une hausse qui dépasse les normes admises. En tout cas, notre service hospitalier est au bord de l'épuisement, quoi, parce que s'il y a de nouveaux malades, on ne pourra pas les accueillir. Donc, il fallait à tout prix, me semble-t-il, hein, c'est contesté. Il y a des gens qui contestent le masque en Martinique, comme dans l'Hexagone, d'ailleurs. Et bon, mais la réalité est là. Personne n'est responsable du virus et il faut savoir raison garder. Et donc, même si c'est douloureux, même si les petits commerces en prennent plein la figure, et notamment les librairies, hein, qui m'intéressent en tant qu'écrivain, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? C'est un cas de force majeure.
Et vous sentez une inquiétude en Martinique?
Oui, je sens une inquiétude parce que la situation économique est quand même assez difficile. Il y a un chômage important, il y a, toutes sortes de problèmes écologiques. Vous avez certainement entendu parler de l'empoisonnement par ce pesticide appelé le chlordécone.
Oui.
Utilisé dans les bananeraies, qui a provoqué une explosion des cancers assez exponentielle. Et la Martinique détient le record du monde du cancer de la prostate, par exemple. Bon, alors, s'ajoute à tout ça le Covid, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Hein. Ça, franchement, là, c'est le coup de massue sur la tête.
Une inquiétude sanitaire, une inquiétude économique et puis une inquiétude culturelle, comme vous commenciez de nous le dire, Raphaël Confiant. Alors, en même temps, on dit que les écrivains sont des êtres solitaires et qu'ils aiment bien être chez eux devant leur ordinateur ou leur feuille blanche pour écrire. Comment est-ce que vous le vivez, vous, ce deuxième confinement forcé, donc?
Eh bien, écoutez, je suis un confiné d'habitude, hein, comme tout écrivain. Je ne suis pas quelqu'un qui se déplace sans arrêt. Donc, si vous voulez, je ne suis pas directement touché par ce confinement. Je ne le suis que par le fait que les librairies sont fermées.
Oui.
Par le fait que je suis invité à faire des conférences. Mon dernier livre dont on va parler tout à l'heure, ben, il est sorti et je suis invité un peu partout. Oui, mais les bibliothèques sont fermées. Les conférences sont interdites. Donc, c'est tuer un livre, enfin, c'est pas seulement mon livre, hein. Tous les auteurs dans l'Hexagone et tout, ben, leur livre qui sort là en ce moment, ou qui est sorti depuis un mois, ben, c'est fichu, quoi.
Donc, vous nous confirmez, Raphaël Confiant, qu'en effet, les lieux culturels, les bibliothèques et les librairies sont fermés et que ça a mis un coup de frein terrible aux activités.
Non seulement cela, mais ce qui est pire, c'est que quand les librairies et les petits commerces ont protesté, en disant que les grandes surfaces bénéficiaient de faveurs, puisqu'elles peuvent ouvrir, le gouvernement a interdit la vente des livres dans les grandes surfaces. Donc bon, les librairies sont fermées et les grandes surfaces n'ont plus le droit de vendre des livres. Alors bon, ben, c'est le degré zéro de la littérature, là, hein, de la culture même. Hein.
Et c'est la même chose en Hexagone, en effet.
Ben oui, mais c'est en Belgique, je note que les livres sont considérés comme des biens essentiels. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu ça ce matin sur Internet, que la Belgique a classé les livres parmi les biens essentiels et que les librairies sont ouvertes.
Alors, bon. Un exemple à suivre.
Alors, je ne sais pas si c'est un exemple à suivre, parce que je ne connais pas bien la situation sanitaire dans l'Hexagone, mais en tout cas, en Martinique, il n'y a pas grand monde dans les librairies, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas des lieux où ça se bouscule, ce n'est quand même pas des supermarchés, les librairies. Donc, s'il y a une contamination possible, elle est plus dans les supermarchés que dans les librairies, où il y a deux, trois clampins qui se baladent de temps à autre. Faut pas exagérer.
Donc pour l'instant, en effet, les librairies et les bibliothèques sont fermées. Nous espérons que ça reste très temporaire. Et heureusement, les textes restent. Les grandes voix persistent, comme celle d'Aimé Césaire, par exemple, que vous citez à plusieurs reprises dans votre nouveau roman, Raphaël Confiant, dont nous allons parler dans un instant. Aimé Césaire, dont je vous propose d'entendre ici un extrait de son grand livre « Cahier d'un retour au pays natal » lu par le comédien Jacques Martial.
Ce qui est à moi, c'est quelques milliers de mortiférés qui tournent en rond dans la calebasse du Nil. Et ce qui est à moi aussi. L'archipel. Arqué comme le désir, inquiet de se nier. On dirait une anxiété maternelle pour protéger la ténuité plus délicate qui sépare l'une de l'autre Amérique. Et ces flancs qui sécrètent pour l'Europe la bonne liqueur d'un Gulf Stream. Et l'un des deux versants d'incandescence entre quoi l'équateur funambule vers l'Afrique. Et mon île. Non, clôture. Sa claire audace debout, à l'arrière de cette Polynésie. Devant elle, la Guadeloupe. Fendu en deux, de sa raie dorsale et de même misère que nous. Haïti. Où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait en son humanité. Et la comique petite queue de la Floride où d'un nègre s'achève la strangulation. Et l'Afrique. Gigantesquement chenillant jusqu'au pied hispanique de l'Europe. Sa nudité, où la mort fauche à larges andins.
Voilà ce portrait de la Martinique, extrait de Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire que nous venons d'écouter, qui est exactement le passage que vous citez, Raphaël Confiant, dans votre nouveau roman intitulé « Du morne des S au Djebel », publié chez Caraïbes Éditions, un livre qui, comme son titre l'indique, nous emmène de la Martinique à l'Algérie à la fin des années 50, au cœur même de cette guerre d'indépendance meurtrière à laquelle ont participé des soldats, appelés ou professionnels, venus de Martinique et de Guadeloupe. Un fait historique qu'on a un peu oublié ici en Hexagone. Est-ce que c'est le cas aussi aux Antilles, Raphaël Confiant ?
Oui, absolument. Il y a un non-dit. Parce que, bon, cette guerre a fait quand même pas mal de morts dans les rangs des soldats antillais. Mais comme ce n'était pas une vraie guerre, en fait, parce qu'on parlait des événements d'Algérie, rappelez-vous, la France n'a jamais reconnu qu'il s'agissait d'une guerre. Et donc, la mémoire populaire en Martinique n'a presque rien retenu de cette guerre, sauf que le 11 novembre ou le 14 juillet, devant les monuments aux morts, on voit des messieurs en vareuse, en militaire, avec des médailles, glanées pendant la guerre d'Algérie. Et c'est ça le seul élément qui permet de rappeler la participation des soldats antillais à cette guerre.
Et pourtant, il y a eu une figure martiniquaise historique, Frantz Fanon, qui s'est engagé auprès des Algériens. Vous pensez que sa notoriété a occulté les autres, selon vous ?
Oui, parce qu'elle a fait quoi ? Que tous les Martiniquais et les autres Antillais, les Guyanais, etc., Réunionnais, qui étaient dans l'armée française en Algérie, qui étaient des Fanons. La belle image, la grande image de Fanon a occulté le fait que nos soldats, ils étaient comme n'importe quel soldat, bourguignon, vendéen, breton, alsacien, c'est-à-dire qu'ils exécutaient les ordres, et qui dit exécuter les ordres dans cette guerre sale, c'était commettre des exactions. Et donc, Fanon est une exception. Alors, il n'y avait pas que Fanon. Il y a eu quand même une dizaine de déserteurs ou de gens qui ont rejoint le Front National de Libération. D'accord. Mais cette petite dizaine de gens qui est passée du côté algérien, son épopée est si belle à travers l'image de Fanon qu'elle a fini par occulter le fait que nos soldats antillais, eux aussi, ils ont tué, ils ont torturé, ils ont brûlé, ils ont fait comme n'importe quel soldat français de base. Hein.
Et quel est votre sentiment vers cet engagement de Frantz Fanon qui, je le rappelle, est mort en Algérie en 1961 à l'âge de 36 ans et à qui vous avez consacré un livre, Raphaël Confiant ?
Absolument. Je n'ai pas consacré à Fanon une énième étude universitaire, mais ce que j'ai appelé une biographie imaginée et non pas imaginaire. Imaginée parce que tous les faits sont vrais. Je n'ai inventé que les dialogues et les descriptions de paysages, etc. Je me suis mis coulé dans la peau de Fanon. Je parle au jeu dans cette biographie. La trajectoire de Fanon est surprenante. Elle est surprenante parce qu'elle est exceptionnelle. Les Antillais appartiennent à ce qu'on appelle une vieille colonie. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas attendu le 19e siècle pour être colonisées comme l'Afrique ou le Maghreb. Elles sont colonisées depuis 1625, c'est-à-dire depuis le 17e siècle. Donc il y a un processus puissant d'assimilation et de francisation qui s'est opéré et qui a fait qu'à la génération de Fanon, les trois quarts des Martiniquais, si je ne sais pas, j'exagère, je diminue trop, 90% des Martiniquais se considèrent comme des Français à part entière. Et quand on les envoie se battre, en 1862, dans la guerre du Mexique, lorsque Napoléon III voulait reconquérir le Mexique, dans la guerre de 1870 contre l'Allemagne, dans la guerre 14-18, dans la guerre 39-45, dans la guerre d'Indochine, on arrive à la guerre d'Algérie. Les Antillais ont fait toutes les guerres de l'armée française depuis le 19e siècle. Donc, que quelqu'un comme Fanon prenne conscience qu'il y a quelque chose d'aberrant dans cette situation et qu'il ne pouvait pas être complice de cette situation, est quand même étonnant. Et c'est tellement étonnant qu'il y a très peu de Martiniquais et de Guadeloupéens qui ont suivi sa trace.
Frantz Fanon qui s'est battu contre le colonialisme, comme on l'entend ici dans l'un de ses discours.
Les nations qui entreprennent une guerre coloniale ne se préoccupent pas de confronter les cultures. La guerre coloniale est une gigantesque affaire commerciale et toute perspective doit être ramenée à cette donnée. L'asservissement, au sens le plus rigoureux de la population autochtone, est la première nécessité. Pour cela, il faut briser ces systèmes de référence. L'expropriation, le dépouillement, la razzia, le meurtre objectif se doublent d'une mise à sac des chaînes culturelles ou du moins conditionne cette mise à sac. Le panorama social est déstructuré, les valeurs bafouées, écrasées, vidées.
Amen. يغسل دقبر الوسيد سيالا يزيزين ميسيد سحب يري القوت وسندق قارص الزين وغار يتسل دقبر الوسيد سيالا يزيزين ميسيد سحب يري القوت وسندق قارص الزين سليت ذفير وموز الطاق سليتي جبالين أرش الزين ديث مغرفة سنصار تقديمين سليت ذفير وموز الطاق سليتي جبالين أرش الزين ديث مغرفة سنصار تقديمين يا لا لا يا لا 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 أرش الزين ديث مغرفة يا لا لا يا لا 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 سنصار تقديمين بقاتيني ما يلي غريبة
وكل الوحش الغابة غابة بين وغابة بين وغابة
وقد غول ذناكيني ما يلي غريبة سود في بورا ثقيك شمن سحلولا جبعت تسرقو تفسو ثقور هيدرا حجبا فلي سود في بورا ثقيك شمن سحلولا جبعت تسرقو تفسو ثقور هيدرا حجبا ملاق جمورا قزف في ذكرا كيني ذنين ملالا داكوات وخامث ما شاهو تزلا ملاق جمورا قزف في ذكرا كيني ذنين ملال عندك واث وخامث ما شاهو تسلم
يا لا لا يا لا لا لا
ملال عندك واث وخام
يا لا لا يا لا لا لا
ما شاهو تسلم
خلي لي انت بورد بين وبغاب بين وبغاب
شن شن تيز بقاثيني ما يلي غريب غاب
وكل الوحش الغاب
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI. En ligne aujourd'hui avec Raphaël Confiant de la Martinique pour parler de son nouveau roman « Du morne des S au Djebel » publié chez Caraïbes Éditions qui s'ancre entre la Martinique et l'Algérie à travers le destin de trois hommes enrôlés dans cette guerre d'indépendance et qui connaîtront trois destins différents. Juvénal Martineau, qui, quoi qu'il en coûte, restera fidèle à l'armée française, en dépit des terribles exactions dont il est témoin et acteur. Ludovic Cabon, qui lui préférera déserter plutôt que de perpétrer des meurtres sous couvert de son uniforme. Et enfin, Dany Béraud, qui rejoint les indépendantistes algériens, pour qui il sera espion. Est-ce que le portrait de ces trois personnalités romanesques vous a été inspiré par des personnes réelles, Raphaël Confiant ?
Absolument. Ce sont trois personnes réelles. J'ai changé les noms, mais je me suis rapproché de ces personnes pour savoir ce qu'ils ont vécu, parce que bien sûr, j'étais enfant pendant la guerre d'Algérie, et j'ai beaucoup appris à leur côté, et je leur ai demandé l'autorisation, bien sûr, de pouvoir, en changeant quelques noms, quelques lieux, etc., parler de leur expérience. Et ça a été très important pour moi parce que avoir le témoignage de gens qui ont directement fait la guerre est quand même intéressant. Je vais donner un exemple. Lorsque Cabon est à bord d'un hélicoptère où il y a un suspect algérien du FLN, trois autres officiers français, et qu'on menace le suspect qui refuse de parler, de le projeter en l'air à 1000 mètres d'altitude. Et comme il refuse de parler, effectivement, on le projette du haut de l'hélicoptère. Bien, ce fait m'a été raconté par Cabon, et il en avait des frissons 30 ans après. Donc il en avait, alors c'est pas la seule exaction dont il m'a parlé. Dans le livre aussi, je parle de la GIGN, de l'électricité que l'on utilisait pour obliger les suspects à trahir le FLN. Donc, oui, ces trois personnages ont réellement existé et ont trois destins différents parce que qu'ils proviennent de trois milieux sociaux différents.
Alors justement, ce sont en effet trois hommes qui à la fois viennent de la même île et en même temps qui sont très différents par leurs origines sociales. Est-ce que vous vouliez aussi représenter la diversité de la Martinique à travers eux, Raphaël Confiant ?
Oui, absolument, parce que c'est pas parce que la Martinique est une petite île qu'il n'y a pas de classe sociale, qu'il n'y a pas de différenciation sociale. Il y a de très grosses différenciations sociales. Il y a d'abord le groupe des descendants des colons blancs appelé Béké. Il y a une classe intermédiaire qui est faite des métis de Béké et de Noirs, qui est appelée mulâtre. Il y a les Noirs, il y a les Indiens, il y a les Syro-Libanais, les Chinois, enfin. Nous sommes une société multiraciale, hein, et donc souvent les classes sociales recoupent les classes, je dirais, raciales, au point que les ethnologues ont parlé d'ethnoclasse. Ils ont lancé le concept d'ethnoclasse, c'est-à-dire que souvent à telle classe sociale correspond telle race entre guillemets ou telle ethnie plutôt. Eh bien, il est évident qu'un soldat martiniquais qui est en Algérie, il ne réagit pas de la même façon s'il est noir ou s'il est métis. Pourquoi ? Parce que quand il est noir, il est perçu immédiatement par la population algérienne comme étant un étranger, alors que s'il est mulâtre, il peut se fondre dans la population algérienne. Donc le rapport n'est pas du tout le même. Et quelqu'un qui vient du fin fond de la campagne comme Cabon n'est pas la même personne que Juvénal Martineau, dont le père vient d'une dynastie de juristes. Dont le père est un ténor du barreau de Fort-de-France. Donc, les expériences qu'ont vécues en Algérie, des gens d'extraction sociale si différente, méritaient dans mon roman d'être explicitées. Les Antillais qui sont en Algérie pendant la guerre ne forment pas un tout. C'est pas un bloc homogène. Ils représentent des groupes sociaux et ethniques qui en Martinique.
Et ce qui explique aussi, sans doute, leurs choix différents. En tout cas, ce que l'on voit aussi à travers votre roman, Raphaël Confiant, c'est que ce sont trois hommes qui, tout en restant d'ailleurs fidèles, voire nostalgiques de leur île natale, et de longues scènes nous permettent de découvrir leur enfance, leur milieu, leur parcours familial et professionnel. Néanmoins, ils vont retrouver, me semble-t-il, en Algérie, une forme de familiarité. Est-ce que vous diriez en effet qu'il y a des points communs entre les deux cultures, antillaise et algérienne ?
Alors, je ne dirais pas qu'il y a des points communs, parce que la culture arabo-musulmane ou maghrébine est quand même très différente de la culture antillaise. Les points communs qu'il y a, c'est plutôt des points communs au niveau social, au niveau économique et au niveau politique. Lorsque les Antillais débarquent en Algérie, ils ne peuvent pas manquer de voir qu'en fait, il y a deux populations exactement comme dans leur île. Dans leur île, il y a d'une part le groupe Béké, des Blancs créoles qui vit à part, et le reste de la population. Et en Algérie, il y a les Pieds Noirs, qui sont une minorité, et qui, à leurs yeux, représentent les Piquets et les Antillais, et puis la masse de la population qui correspond à la masse noire en Martinique. Donc, c'est plus une équivalence sociopolitique qu'une équivalence vraiment culturelle. Parce que la Martinique est une terre où l'islam, par exemple, n'existe pas du tout. Donc, quand nos soldats débarquent là-bas, ils sont absolument stupéfaits par la puissance de cette religion, par la langue arabe, qui est très différente de tout ce qu'ils connaissent. Donc, il y a un choc culturel, mais qui est atténué par la similarité des situations sociopolitiques.
Raphaël Confiant, vous avez vécu en Algérie et ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur ce pays. Pourquoi est-ce que vous y êtes si attaché ?
Eh bien, j'ai, comme beaucoup d'autres jeunes intellectuels antillais, après mes études de sciences politiques à Aix-en-Provence, j'ai décidé de rejoindre l'Algérie. Parce qu'il y avait le mythe Fanon. Il y avait le mythe Fanon, j'ai été éventé par le mythe Fanon, mais je ne suis pas le seul, hein, beaucoup de jeunes Antillais l'ont été. C'était l'époque d'Alger, maître de la Révolution, sous le président Boumédienne. Donc à Alger, vous aviez quasiment une rue entière où il y avait le siège de l'OLP, le siège du Frolina, du Tchad, le siège du MPGI de Guinée-Bissau, le siège de l'Irish Republican Army, l'IRA, enfin, tout ce qui a fait la révolution, les Tamouls, les Tigres Tamouls, enfin bon, Alger, d'ailleurs, Amilcar Cabral, le leader révolutionnaire de Guinée-Bissau disait avec humour, lorsqu'on est musulman, on va à la Mecque, lorsqu'on est révolutionnaire, on va à Alger. Donc j'ai vraiment vécu cette période, cette grande période d'Alger, Mecque de la Révolution, et j'ai été, comme beaucoup d'autres jeunes Antillais, attiré, n'est-ce pas, par... Il y avait eu les Black Panthers aussi, hein. Ils avaient détourné à l'époque où j'étais là un avion sur Alger, et ils avaient été accueillis. Je crois que c'est le couple Cleaver, Elridge Cleaver et Catherine Cleaver. Et donc, bon, j'ai été attiré par cela, et bon, j'y ai vécu, et je ne regrette pas du tout cette partie de ma vie, hein, qui a été fondamentale.
Est-ce que votre vœu, Raphaël Confiance, c'est qu'avec la fiction, vous rappeliez les liens entre le continent africain et les Caraïbes ?
Oui, absolument, parce qu'il y a le lien traditionnel avec l'Afrique noire, que Césaire et d'autres ont très bien, Zobel, etc., très bien mis en lumière. Mais le lien avec l'Afrique du Nord, hormis les livres savants consacrés à Fanon, n'ont jamais été exprimés en littérature. Or, ce lien est quand même fort, parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres écrivains, comme Daniel Bookman, etc., Tony Rupert, le Guadeloupéen. Il y a beaucoup de jeunes Antillais qui se sont rendus en Algérie, soit pendant la guerre, et qui ont rejoint le FLN, ou comme moi, 10 ans après la guerre, et attirés par le mythe, n'est-ce pas, de la révolution algérienne. Et ceci n'est presque jamais exprimé dans notre littérature. Mon livre est le premier roman antillais qui parle de la présence des soldats antillais en Algérie. C'est quand même extraordinaire, puisque l'Algérie devient indépendante en 62, et nous sommes en 2020. C'est quand même énorme, quoi. Le temps qui a passé, sans que personne ne juge utile d'écrire un livre, hein, ne serait-ce qu'un livre historique, hein, ou alors comme moi, un roman, qui retrace la trajectoire de nos soldats en terre algérienne.
Et voilà, c'est donc fait grâce à vous, Raphaël Confiant. On n'a pas eu le temps de parler de toute la beauté de votre langue qui mêle français, créole, arabe, un vrai appel à la réconciliation, ni de dire à quel point vos personnages sont attachants, qu'ils ont tous pour point commun d'être très érudits, qu'ils lisent énormément les uns et les autres, et Dany en particulier qui adore le théâtre, que vous faites allusion évidemment à Césaire, à Fanon et à Sartre. Trois auteurs majeurs et en même temps qui bousculent. Voilà, on n'a pas tout dit, mais on a entendu votre parole, Raphaël Confiant. Merci beaucoup de nous avoir parlé de Martinique, de ce nouveau roman du Morne des Es au Djebel qui a été publié chez Caraïbes Éditions. Un livre qu'on peut sans doute commander sur les plateformes des librairies et en tout cas qui sera en bonne place dès la réouverture de nos magasins chéris. Merci encore, Raphaël Confiant.
C'est moi qui vous remercie. On peut acheter le livre sur le site de l'éditeur aussi, que l'on peut facilement trouver à partir de Google, Caraïbes Éditions.
Voilà.
Je vous remercie beaucoup.
Les références seront sur le site internet. Bonne journée, au revoir.
À vous aussi, merci, bonne journée, bye bye.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.